Bâtiment avec Marjolaine Meynier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à tous, nous voici de retour sur Bâti Radio pour un Bâti Moment Ensemble. Alors vous le savez, avec cette émission, on travaille sur les sujets de la construction, de l'aménagement du territoire, mais bien sûr on évoque toujours les questions de développement durable et de protection de l'environnement, parce que cette émission, vous le savez maintenant, c'est celle qui fait vraiment le pari que ce sont vos filières à vous qui vont nous permettre d'avancer sur toutes ces questions de transition environnementale qui se posent à nous aujourd'hui. Alors sans transition, j'accueille mon invité du jour, Philippe Estinguois, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes ingénieur et haut fonctionnaire. Alors que vous êtes aujourd'hui directeur général de l'AQCD depuis 8 ans, vous avez été auparavant pendant 11 ans directeur départemental de l'équipement puis des territoires en Saône-et-Loire et dans la Loire. Et dans cette fonction, vous étiez aussi délégué départemental de l'ANRU et de l'ANA. En pratique, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez dans la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur du bâtiment et de l'aménagement du territoire. C'est un joli parcours. Expliquez-moi comment il a démarré.
Dans la construction et dans l'aménagement, j'y suis un peu par hasard. Quand j'étais gamin, ma volonté, c'était de construire des ponts.
D'accord.
Des ponts entre les rives. Donc, pour lier les rives, c'était un petit peu théorique, tout ça. Et donc, j'ai fait une école qui m'a permis de le faire. Je l'ai fait. Donc, j'ai construit des ponts, plusieurs ponts. Et puis, le hasard, donc...
On peut savoir quel pont, par curiosité ?
En Indre-et-Loire. Donc, j'ai construit plusieurs ponts, dont un pont... ouvrage exceptionnel, un pont poussé, donc qui est un très bel ouvrage, donc qui a été fait avec le CETRA et dont j'ai été très fier. Donc je suis toujours très fier.
Il faut
donc
qu'on ait trouvé une photo de ce pont-là, du coup.
Je passe dessus. On doit trouver ça sur Google.
Ah ouais, je vais aller chercher très vite après très l'émission.
Et après ça, donc au sein du ministère de l'équipement, il faut faire des mobilités géographiques, des mobilités fonctionnelles. Et puis à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe construction publique, donc un petit peu par hasard, donc pas du tout du côté de Tours, donc c'était en Haute-Savoie.
Près de chez moi, ça.
Oui, je me suis pris au jeu de la construction parce que j'ai trouvé ça aussi tout à fait intéressant. Après avoir créé du lien donc entre deux rives, l'intérêt de la construction, c'était effectivement de participer au vivre des personnes, que ce soit dans des équipements publics ou dans de la construction d'habitations. Et j'ai trouvé que au regard des enjeux principaux donc qui guidaient ma vocation entre guillemets, le service du public, donc ça répondait complètement parce qu'on était au service du public. Bon. Et puis après j'ai travaillé dans le domaine de l'aménagement et puis j'ai participé à la création du CERTU, donc un département construction publique. Donc je me suis beaucoup investi, j'ai écrit des livres, j'ai fait. Je ne sais pas ne pas m'investir. Donc quand je travaille sur un sujet, c'est parfois désagréable, mais c'est passionnant.
Alors justement, aujourd'hui, votre engagement vous amène à l'AQC. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cet acronyme étrange pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors l'AQC, pour Agence Qualité Construction, c'est une association donc, qui a été créée à l'initiative de l'État, mais qui n'est pas financée par l'État, et qui a un objectif unique, c'est prévenir les désordres dans la construction et améliorer la qualité de la construction. C'est un objectif unique. Alors il est simple, mais assez compliqué pour le tenir. Donc il y a un enjeu que l'on n'imagine pas bien du coût des désordres dans la construction, un coût collectif par définition, hein, combien même ça soit pris en charge pour partie par des assurances, c'est de fait un coût collectif. Mmh. Et ce coût collectif, donc il faut aussi le repositionner au travers d'un certain nombre d'autres enjeux, donc en particulier les enjeux énergétiques, les enjeux de bilan carbone, parce que dès lors qu'il y a un désordre, eh ben ça veut dire qu'il y a une surconsommation énergétique, donc matière ou fonctionnement, et puis donc une surconsommation aussi de carbone. Mmh. et un des sujets forts donc historiques, hein, puisque donc l'AQC a déjà quelque temps, mais c'est bien de progresser au travers de ça et au travers de ce coût pour le collectif.
Ah, c'est quoi aujourd'hui la stade du coût de la non qualité dans le bâtiment?
Alors, on n'a pas de données très très précises autour de ça, donc on évalue ça grossièrement à environ 10%. du chiffre d'affaires de la construction environ.
Ça voudrait dire que l'équivalent, en gros, c'est une voiture sur 10 qui sort et elle ne marche pas, quoi.
On ne peut pas dire ça. Parce que 10%, oui, un peu. Mais il y en a peut-être plus que 10% de voitures qui ne marchent pas très bien quand elles sortent. Hein. En pratique, ces 10%, ça couvre beaucoup de choses. Mm. Hein. Ça couvre des désordres visibles, matériels, etc., qui peuvent être pris en charge par l'assurance dans le cadre de la garantie décennale. Ça peut couvrir ça. Ça couvre aussi éventuellement des désordres post, donc avec des situations qui arrivent après la garantie décennale, avec des dégâts des eaux pris en charge par la multirisque habitation, c'est des conséquences autour de l'incendie, etc. Et puis, ces 10%, ça intègre aussi donc des surcoûts de fonctionnement qu'on voit pas forcément, mais un mauvais dimensionnement, un mauvais équilibrage d'une installation de chauffage, etc., etc., ça génère donc des surcoûts de chauffage qui peuvent être particulièrement pénalisants. Il peut y avoir aussi des surcoûts d'entretien. Il peut y avoir des surcoûts dans les dispositifs de fonctionnement. Donc j'ai eu l'occasion d'être conducteur d'opération sur une prison. Hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joyeux, mais c'est très important.
C'est efficace et puis c'est
oui. Et puis c'est très important de se préoccuper de comment ça fonctionne, aussi, oui. de l'humain à l'intérieur, à la fois des prisonniers, hein, donc pour lesquels il ne doit pas y avoir plus de punition que l'enfermement.
Mais non, je suis 100% d'accord avec ça.
Et puis pour les gardiens, donc qui sont eux aussi enfermés d'ailleurs pendant qu'ils sont là, et donc dans les prisons, donc une mauvaise conception, ça peut augmenter le nombre de postes de travail, l'obligation de postes de travail parce que il y a des enjeux de visibilité, etc. Alors j'ai pris les prisons parce que c'est vraiment très symptomatique, hein, donc il y a un coût rapide. Donc ça existe aussi dans tout ce qui est hospitalier. Une mauvaise distribution des locaux, une mauvaise optimisation d'un certain nombre d'installations, ça impose donc du personnel en plus, donc des coûts en plus, ou des dysfonctionnements, hein, comme on peut en parler en ce moment. Donc donc les 10% que j'évoquais tout à l'heure, ça regroupe tout ça.
Alors on peut pas dire que c'est du black ou du noir ou blanc, black and white, voilà. Où on est sur un truc qui marche ou qui marche pas, mais effectivement il y a des parties de tel ou tel truc qui sont pas optimum et qui du coup créent des modèles moins optimisés, qui fonctionnent moins bien, qui du coup vont amener des correctifs, etc., etc.
Tout à fait. Donc c'est vraiment un raisonnement en coût global.
Et le coût total, on évoque des fois le chiffre de 20 milliards, c'est...
De désordre ?
Ouais.
Non, ça c'est... J'ai plus le chiffre en tête, 20 milliards...
Apparemment, il faudra qu'on aille vérifier tous les deux notre chiffre.
On ira vérifier.
Donc, je l'ai évoqué, mais c'est peut-être pas du tout ça.
C'est pas une mauvaise échelle.
D'accord.
En tout état de cause, hein, c'est pas une mauvaise échelle. Alors, il faut avoir en tête aussi, donc... On a quand même progressé par rapport à ça, avec la loi, donc la loi Spinetta en tout premier lieu, donc qui a permis donc de réparer avant que les désordres donc ne soient trop importants. Hein, c'est ça l'enjeu premier, hein, c'est permettre la réparation donc sans qu'il y ait amplification des désordres et sans qu'on recherche les responsables. Dès lors qu'il y a un désordre, donc il y a un système avec les assurances qui permet de réparer. Et puis aussi régulièrement, on fait progresser en sensibilisant donc les professionnels et les maîtres d'ouvrage, hein, les donneurs d'ordre et les particuliers. Et puis on fait aussi progresser donc au travers de la législation. Donc quand on arrive à avoir une influence sur la législation, et on fait aussi progresser donc en faisant bouger un peu le système normatif. Donc, de façon à ce que on ait bien la bonne référence qui permet d'avoir le résultat qui est escompté. D'accord. Et en ce moment, le système normatif bouge beaucoup.
Oui, on a vu ça. j'avais envie de compléter en fait en disant il y a les questions de normatif, il y a les questions de conception, mais il y a aussi les questions de main-d'œuvre, d'application de tout ça en fait. Et aujourd'hui, est-ce que les tensions qu'on voit dans les problématiques de recrutement dans les entreprises, est-ce que ça joue pas un rôle ? On a aujourd'hui une forme de massification de besoins en fait dans le secteur du bâtiment. On a besoin de plus en plus de monde en réalité pour répondre aux enjeux environnementaux. On n'arrive pas bien à mettre en face des besoins les gens et les compétences qui sont là. Est-ce que ça, du coup, c'est pas un vrai risque du développement de la non-qualité. Je pense par exemple au sujet des combles à 1 euro, etc., qui pour moi ne sont pas une erreur dans la conception du modèle, mais une dérive qui est liée à un marché qui s'est massifié d'un coup et où en face, on n'a pas pu mettre les compétences calées, en fait, qu'il fallait. Je sais pas quelle est votre vision là-dessus, Philippe.
Alors, par rapport à ça, sans vouloir vous fâcher...
Je me fâche jamais,
non,
moi.
Non, mais sans vouloir vous fâcher, moi, il y a un sujet qui est assez fondamental, c'est la prise en compte de la mise en œuvre lors de la production législative, ou lors de la production réglementaire, ou lors d'une production norme volontaire. On doit se préoccuper de la façon dont on le met en œuvre, et on doit aussi penser qu'il y a des gens malveillants. Et dans le problème donc des combles à 1 euro, qui est vraiment une idée positive,
oui, hein, c'est
une idée
donc dans
le cadre, voilà,
dans
le cadre de laquelle
pas cracher dans la soupe, hein.
Non seulement pas de reste à charge, mais pas d'avance.
Oui.
Par le ménage, c'était quelque chose de très positif.
Oui. Bon, c'est pour ça que ça a si bien marché d'ailleurs.
Oui, mais sauf que ça a très bien marché parce qu'il y a aussi donc un certain nombre d'éco-délinquants. Donc qui sont rentrés
dans le
dispositif, qui sont rentrés en ayant donc bien trouvé toutes les petites failles donc qui leur permettaient d'obtenir les aides et puis de faire un travail de gougnafier.
Mais en même temps, est-ce qu'ils se sont pas faufilés parce que pour le coup, on avait une difficulté de la main d'œuvre installée existante dans les territoires à répondre à une telle demande qui est venue.
Oui, mais justement par rapport à ça, c'est est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs ? C'est ce que je disais
on
tout à l'heure.
On a ouvert trop vite, trop
voilà,
fort.
On a ouvert trop vite, trop fort. Mmh. Donc, ce qu'il fallait dire, c'est...
Ça fait un peu penser à ce qu'on va faire autour des audits, ça, d'ailleurs.
C'est ce que j'ai dit dans une commission là-dessus. Vous n'étiez pas arrivé, où j'ai fait la remarque. Très, très exactement cette remarque-là. Donc, il est indispensable. Donc, moi, il est indispensable, hein. Donc que nous ayons une politique très volontariste sur le sujet. Donc ça, c'est non discutable. Mais après, dans cette politique très volontariste, il faut qu'on regarde les outils dont on dispose pour pouvoir le faire. Et si on n'a pas les outils, eh ben on les prépare, ces outils.
Vous pensez des fois que le législateur, il méconnaît la filière, il voit pas forcément la capacité de la mise en œuvre derrière ?
Ben, je crois qu'il n'a pas forcément le temps de regarder. Il n'a pas
en
forcément
fait,
tout le temps de regarder.
En fait, la problématique que peut avoir le législateur, c'est on a un espèce de tic-tac climatique qui est constamment à nos oreilles et il faut bien aussi qu'on soit préoccupé par ça. Et de l'autre côté du coup, on a cet espace de temps entre maintenant et 2050 pour renverser la table. On parle d'augmentation de volume de traitement des sujets qui va être absolument démentiel. On multiplie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on parle du nombre de rénovations qu'on doit faire. Chaque année, en 2017, on était à un niveau de 370 000 rénovations par an. C'est à peu près ça les chiffres qu'on évoquait. Partiel, aujourd'hui, on doit être à 1 million de rénovations BBC par an. Comment on fait pour garder de la qualité avec une telle explosion ? Et on ne peut pas demander aux législateurs qu'il aille moins vite parce que c'est les timings du climat, ce n'est pas les nôtres. Comment on fait ?
Quand je dis législateur, je ne dis pas législateur de la session actuelle.
Hein. Non, mais
c'est historique.
Non, mais
donc,
je pense
le problème en question, c'est que le législateur, donc historiquement, ne s'est pas posé cette question-là. Il aurait dû se la poser il y a 10 ans déjà.
Oui, c'est vrai. Dès les années 70. Hein.
Il aurait dû travailler là-dessus. Dans les années 70, il avait pas mal travaillé. Il avait mis en place un dispositif qui s'appelait le Fonds spécial Grands Travaux.
Ouais.
Donc c'était un des premiers sujets que j'ai traité en rentrant dans le domaine de la construction et il avait à sa disposition des moyens qui n'existent plus hein, puisque on a quasiment dissous les moyens qui existaient dans les directions départementales.
On les a mis dans d'autres cases sans doute parce que le problème
on sait pas où
c'est
parti mais en l'occurrence il n'y a plus ces moyens de là pour
intervenir. On n'aime pas bien ça, le politique n'aime pas bien un dispositif qui marchait sur le mandat d'avant, on aime bien qu'il soit transformé pour le mandat d'après.
Et par rapport à ça, donc ce qui est important, c'est qu'il faut se donner les moyens de surveiller aussi. Donc un, penser, voir comment on met en œuvre et surveiller.
Et c'est aussi le rôle de l'AQC du coup.
Non, l'AQC c'est pas son rôle de faire ça. Mmh. C'est pas du tout son rôle.
Mais
hein,
qui
donc
le fait du coup?
Bah c'est la puissance publique qui doit le faire. Donc
avec
ça peut être les collectivités, ça peut être l'État. Avec quels outils? Avec justement l'État, il y a plus d'outils.
On n'en a plus vraiment hein, pour aller contrôler,
non,
mesurer le résultat.
Non, il n'y a plus les outils au niveau de l'État, puisque ça a été... Donc là, depuis le début des années 2000, c'était assez important ce qui s'est passé, donc la suppression de moyens donc qui étaient là-dessus dans les services de l'État, donc ils sont plus là. Et donc il faudrait que ça se retrouve dans les collectivités.
Sur les CE2E, on a quand même de l'échantillonnage de contrôle qualité sur la Réno qui essaye de lutter contre les fraudes qu'on a évoquées avant.
Et après, il faut se donner les moyens effectivement de punir. Alors la DGCCRF a fait un certain nombre d'actions là-dessus, c'est son job. On pourrait imaginer qu'elle en fasse un peu plus. Hein, parce que
Je vous dirai elle aussi qu'elle a besoin de moyens.
et je suis d'accord. Ouais. Et je suis d'accord là-dessus. Ils ont besoin de moyens pour le faire. Donc ils ont un sujet très très vaste. Donc la construction est un tout petit sujet.
Même si pour le coup on le dit, enfin je l'entendais dire récemment que malgré tout le secteur du bâtiment c'était un de ceux dans lequel malheureusement il y avait le plus de fraudes et d'arnaques aux consommateurs. Mais c'est lié à ce qu'on disait à l'instant de la massification du sujet et du fait qu'il y a aussi beaucoup de budgets qui sont investis là-dedans. Donc il y a des profiteurs qui se faufilent.
C'est tellement facile et c'est pas nouveau. Hein. Donc quand j'étais directeur départemental dans les années 2000 des territoires, je m'occupais aussi d'agriculture. Et donc dans les foires agricoles, dans les stands de présentation de matériel pour les agriculteurs, il y avait 60% de stands de placement de panneaux photovoltaïques.
Voilà. Oui.
Bon, et on a vu ce que ça a fait par la suite. Alors que c'est un enjeu majeur, le développement du photovoltaïque, et il y a eu mauvais démarrage.
Et mauvais démarrage, et après on freine tout, on bloque tout, parce qu'on se dit ça marche pas,
on a une relance qui est plus compliquée, etc. Alors que si on avait commencé par faire bien, peut-être qu'on n'en serait pas du tout là. Et dans le domaine de la construction, c'est pareil.
Ouais, on massifie beaucoup parce que tout d'un coup, il y a la bonne idée pour tout le monde et puis après, on a du mal à resserrer les vis.
C'est vraiment ce qui m'inquiète le plus.
J'ai envie de parler d'un outil que vous avez développé à la QCI que moi je trouve bien et utile en fait pour les particuliers. C'est vos fiches de réception de travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que ça, c'est quand même un outil hyper pragmatique pour savoir comment.
Pragmatique et qui permet de donner de la confiance entre l'artisan et le bénéficiaire, le propriétaire ou le locataire, le bénéficiaire des travaux. Alors c'est indispensable de travailler là-dessus parce que au-delà des désordres apportés par les éco-délinquants dont on parlait tout à l'heure, donc ces éco-délinquants, on ne parle que de ça dans la presse. Donc les particuliers n'entendent que ça dans la presse et pour eux ils font une assimilation.
C'est plus angoissant de faire ces travaux que d'avoir un accident de voiture.
Exactement, ils font une assimilation entre éco-délinquants et professionnels de la construction.
Ouais.
Alors qu'ils restent marginaux, mais ils sont tellement mis en exergue que dans le grand public. Attention à pas me faire arnaquer, etc. Je sais pas ce qu'on va me raconter. Ils n'arrivent plus à travailler dans une relation de confiance.
Ça.
Avec leur artisan de proximité, qui est essentiel. Et du coup, l'idée, c'était de trouver un moyen de redonner cette confiance au travers de ce constat, que le travail était bien fait et que le travail avait été fait complètement, etc.
Alors, la fiche de réception de travaux, c'est à la fin des travaux. Le particulier ou le professionnel peuvent se doter des fiches de la QC pour regarder ensemble quels sont les points qu'on doit vérifier sur des travaux qui sont bien faits. Et ça, du coup, c'est un petit peu le constat à l'amiable des travaux de rénovation énergétique. C'est écrit sur la fiche. Donc, si les points qu'on constate ensemble, c'est des points qui sont constatables par le particulier, on n'a pas besoin de compétences dans le bâtiment spécifique pour les voir. Et ça permet de savoir concrètement s'il y a un dysfonctionnement, de le voir. Et donc, du coup, soit de mettre l'artisan en face de ses responsabilités, soit effectivement quand le particulier est tellement angoissé qu'il remet tout en question et en fait il a peur de tout, il se dit oh là là mais là j'ai vu tel truc, est-ce que c'est bien normal? Si c'est pas sur la fiche, c'est que tout va bien, il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas besoin de faire des retenues sur la facture, parce que ça c'est quand même aussi un jeu.
Il y a quelques-uns qui faisaient des retenues abusives aussi. Oui.
Absolument, donc c'est freiner les retenues abusives, donc c'est un outil gagnant-gagnant pour le particulier et le professionnel. Mais très concrètement, moi je vous le dis, je l'ai rêvé, vous l'avez fait. C'était, pour moi, c'est un outil absolument indispensable pour améliorer la qualité des travaux de rénovation énergétique. Et je pense que c'est quelque chose que tous ceux qui nous écoutent devraient diffuser autour d'eux. Donc on peut les trouver sur le site de la QC.
Sur le site de la QC, on le trouve donc sur le site Profil, donc Profeel. On le trouve sur le site de l'INC. On le trouve sur le site FER, bien évidemment. Ce qu'il faut aussi à savoir, c'est que ça a été fait avec les professionnels. et qu'on a recalé ça avec des particuliers pour écrire donc ce qui avait été fait par les professionnels en langage des particuliers, de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguïté dans le texte. Et apparemment, ça marche. Donc, il y en a déjà près de 100 000 donc, qui ont été téléchargés. Donc,
il ouais, y a c'est un usage. C'est qu'il y a un usage. Bon, bah, et après cette émission, 200 000, moi, je parie. Très bien. On a, le temps file et je voudrais quand même vous dire, question d'actualité, je crois que l'année prochaine, il y a un anniversaire.
Oui, l'année prochaine, donc, ce sont les 40 ans de l'AQC. Donc, on profitera de cette année de l'anniversaire des 40 ans pour faire refaire un historique de l'AQC. Donc, on parlera du créateur à l'origine, donc que vous connaissez bien, donc Alain Mogard, qui était à la manœuvre donc il y a plus de 40 ans
sur le sujet. Il est de partout, cet Alain.
Et on va faire une rétrospective de l'ensemble de ce que nous avons pu faire, de ce que nous avons pu apporter au collectif, donc dans des progrès qualitatifs. Voilà, donc sera une belle communication autour des apports de l'AQC dans l'intérêt général.
Vous savez que l'année prochaine, c'est aussi mes 40 ans à moi, donc j'espère qu'on les fêtera ensemble.
Ah bah, très bien, donc vous êtes un bébé AQC.
C'est ça, absolument. Alors du coup, dernière question pour la jeunesse qui nous écoute, qu'est-ce que vous aimeriez leur passer? On finit toujours pour un mot pour la jeunesse qui nous écoute et qui doit s'engager et s'investir dans les métiers du bâtiment.
Bah, moi, je regarde donc dans les jeunes que je côtoie, que je peux voir différents endroits. C'est la valeur de ce que l'on fait et l'héritage que l'on donne. C'est-à-dire que il faut être fier de ce que l'on fait et il faut laisser quelque chose aux autres. Et la construction, bah, y a rien de mieux que ça.
Donc on
a une vraie fierté parce que on voit ce que l'on a fait. Hein. Et dans la construction, les travaux publics, on l'a évoqué en introduction. Donc, le pont en question, j'ai montré à toute ma famille. Donc, et les constructions sur lesquelles j'ai travaillé, donc je tourne régulièrement pour les montrer. Et je vais voir comment ça fonctionne. Il y a vraiment une fierté et puis une appropriation des objets que l'on a mis à la disposition des autres. Et ça, il n'y a pas beaucoup de métiers où on a ça. Donc, il faut vraiment aller là-dedans. Pour être fier et pour se dire, quand on se retourne et qu'on a des cheveux blancs, on regarde derrière ce qu'on a fait et on voit des choses. Mmh. Et on voit des choses qui sont utiles aux autres. Et ça, c'est fondamental. Et puis en plus de ça, donc de façon très très pragmatique, donc on a évoqué tout à l'heure donc les métiers dans la construction. Y a du boulot aujourd'hui. En 2030, il y en aura. En 2040, il y en aura. En 2050, il y en aura. Toujours beaucoup. Et puis c'est un vieux métier, disent certains, mais c'est un métier d'avenir aussi, donc avec certitude, qui restera, qui sera pas exactement le même, mais qui restera et qui permettra effectivement à de nombreuses générations d'être fiers de ce qu'ils apportent aux autres.
Un pont à nouveau entre le passé et l'avenir.
Exactement.
Merci Philippe Istingois, le bâtisseur de pont, je garderai ça en mémoire. Belle journée,
merci
d'être là.
Bonne journée à vous aussi.
Au revoir.
Un bâtiment avec Marjolaine Meignet-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.